Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et on ce lundi 30 novembre, vaccination, mode d'emploi. La future campagne se déroulera en 5 phases. Les résidents des EHPAD et leurs soignants seront prioritaires. Nous serons avec Elisabeth Bouvet de la Haute Autorité de Santé. Les labos, eux, sont priés de tester plus vite, sinon ils seront moins bien rémunérés. Dans l'actualité, il y a aussi cette réunion au sommet en ce moment à l'Elysée après les violences policières de la semaine dernière. Les députés de la majorité ont demandé à Gérald Darmanin soit de réécrire, soit de retirer l'article 24 de la loi de sécurité globale. Dans RTL Midi, nous irons aussi à Saintes au procès de l'ancien chirurgien pédophile Joël Le Skouarnec. C'est un homme sans émotion qui a affronté le regard de ses victimes ce matin. Le miraculé du Grand Prix de Bahreïn n'est pas tout à fait sorti indemne. Romain Grosjean, brûlé aux mains après son accident, est forfait au moins pour le prochain Grand Prix ce week-end. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
L'automne ressemble à l'hiver aujourd'hui.
Ah bah oui, hein, y avait de fortes gelées ce matin dans toute la France, sauf en bord de mer, tout ça avec des brouillards. Mais tout de même, cet après-midi, on devrait pouvoir avoir du soleil quasiment partout. Alors, sauf dans l'extrême nord et près de la Manche, où arrivera une nouvelle perturbation. Et puis, il faudra attendre parfois la dissipation des brouillards encore très denses dans la vallée de la Saône ou encore dans le nord-est. Mais on pourra voir le soleil quand même à la fin de la journée. Le tout avec des températures qui resteront très basses dans le nord-est. 1 à 3 degrés seulement, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté. 5 à 9 degrés dans le nord. 8 à 13 degrés près de l'Atlantique et 13 à 16 degrés près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Avez-vous le goût de la lecture? Vous êtes 64% à dire oui, il y a 31% de non. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, parce qu'à l'occasion du prix Goncourt, on va parler des livres. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, votre coup de cœur? Est-ce que vous êtes roman, biographie, essai? On sera avec Bernard Lehu entre 14h et 14h30, qui commentera également le prix Goncourt, bien évidemment. 4 policiers mis en examen, 2 d'entre eux sont écroués. Ça devrait vous faire réagir. Une messe avec 30 personnes maximum, ça n'avait aucun sens, et le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de revenir dans les 3 jours sur sa mesure limitant les cérémonies religieuses. Et puis on pourra également parler du vaccin. Qui doit-on faire vacciner en priorité?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le Goncourt 2020 en mode Covid, le plus prestigieux des prix littéraires, n'est remis qu'aujourd'hui. Et pour la première fois depuis 1914, on n'est pas au restaurant chez Drouan, mais en visioconférence. Bernard Lehu, alors qui est l'heureux élu?
Ah ben, je sais que ça va vous faire plaisir, Christelle Robière. C'est celui qui faisait figure de grand favori, Hervé Le Tellier, pour son roman L'Anomalie, publié chez Gallimard. Il faut dire que c'est un roman étonnant, hein, à la fois de grande qualité littéraire et populaire. On dit deux mots de l'histoire, qui est formidable. Ça commence comme de la science-fiction. Un avion est dérouté de l'aéroport de Kennedy Airport vers une base secrète américaine. Et pour cause, 3 mois plus tôt, le même avion, exactement, avec les mêmes passagers, s'était déjà posé à New York. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est ce mystère? À partir de là, en suivant plusieurs de ces passagers dont on découvre la vie, eh bien, Hervé Le Tellier donne une dimension métaphysique passionnante à son roman. Est-ce que nous avons tous un double? Que nous veut-il? Qui sommes-nous vraiment? L'anomalie prend même une tournure encore plus vertigineuse quand les passagers du premier vol sont confrontés par les enquêteurs américains aux passagers, donc à leur double du second vol. L'anomalie, c'est déjà un succès de l'automne en librairie, un excellent bouche à oreille. Et puis avec ce prix Goncourt, les ventes de l'anomalie vont bien sûr décoller.
Bravo. Et donc là, d'habitude, vous êtes dans la cohue chez Drouan. Oui. Là, on est content. Vous êtes avec nous.
Ben voilà, moi, ça me fait plaisir aussi.
La visio s'est bien passée, visiblement. Oui, on a vu un des jurés qui était aux Antilles.
Ça a été un peu gaguesque au début parce que chacun faisait ses essais avec les micros ouverts. Oui. Donc, on a entendu Françoise Chantanagor. Une des jurés qui donnait des ordres à son mari. Mais sors, va-t'en, quitte la pièce. Pierre Assouline posait devant, il s'était mis un poster, une espèce de palmier. Enfin, voilà.
Le palier avait l'air de bouger, hein, en tout cas. Allez, merci Bernard. Et on vous retrouve à la fin de ce journal pour le prix Renaudot.
Oui, qui doit tomber d'ici un quart d'heure.
À tout à l'heure. Cap sur la vaccination. La Haute Autorité de Santé a dévoilé ce matin le dispositif et les personnes prioritaires compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au début de la campagne. 5 phases progressives sont d'ores et déjà prévues avec une ligne directrice: protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent. Alors Agathe Landais, qui seront les premiers servis?
Eh bien, les premières doses iront aux résidents des EHPAD. Ils seront vaccinés dès que l'on aura reçu les tout premiers vaccins, probablement début 2021. Ils sont largement prioritaires car au départ, on aura, vous l'avez dit, peu de doses et ce sont ces personnes très âgées qui meurent le plus du Covid. Juste après eux, on vaccinera les Français qui s'occupent de ces aînés et qui peuvent les contaminer, les soignants en maison de retraite.
Et ensuite ?
Eh bien là, on passera à la phase 2 avec là beaucoup de paliers, vous allez le voir. D'abord, les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans. Encore après, ce sera au tour des soignants qui ont plus de 50 ans. Cette deuxième phase va concerner en tout 15 millions de personnes. Enfin, pour tous les autres, il faudra être encore plus patient. Il faudra attendre plusieurs mois pour tous les adultes qui souffrent d'une comorbidité, les femmes enceintes, les malades du cancer, les obèses ou encore les diabétiques. Certains métiers dits essentiels et en contact avec la population seront aussi ciblés, les enseignants, les policiers ou encore les pompiers. À noter que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans sont pour le moment exclus de cette liste de personnes qui auront droit à des vaccins. Même avec des comorbidités, ces jeunes ne seront pas prioritaires car ils développent peu de formes graves du Covid. Mais il faut faire des choix, dit la Haute Autorité de Santé, car on le rappelle, la France n'aura pas assez de doses pour vacciner tout le monde.
Merci Agathe. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Bonjour.
Bonjour.
Savez-vous quand va démarrer cette campagne ?
Ben écoutez, selon toute vraisemblance, la campagne devrait démarrer début janvier 2021.
La campagne va commencer, on en parlait à l'instant, dans les EHPAD. Comment ça va se passer et comment avez-vous établi les priorités ?
Nous, comment on a établi les priorités ? Bien, en travaillant à la fois sur l'épidémiologie, c'est-à-dire en regardant ce qui s'est passé dans l'épidémie jusqu'à présent, c'est-à-dire dans la première et la deuxième phase où on a vu que les EHPAD avaient été particulièrement concernés puisqu'elles concentrent à peu près 30% des décès de Covid, que les personnes qui y sont présentes donc sont très vulnérables à l'infection et très exposées à l'infection. Donc tout ça cumule les facteurs de risque. Quand on regarde les données, il est clair que si on veut, avec le nombre de doses qu'on va avoir qui va être relativement limité, on ne peut pas se permettre d'imaginer maintenant d'influencer l'épidémie elle-même. Ce qu'on peut faire, c'est protéger les personnes qui risquent d'être infectées et donc prioriser les personnes les plus vulnérables. C'est ce que nous proposons de faire dans les EHPAD.
Oui, les études cliniques démontrent que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, mais empêche les formes graves. Ça veut dire effectivement qu'il ne faut vacciner que les personnes à risque ?
Pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'il y ait un impact important sur la transmission. C'est pourquoi, dans l'état actuel des connaissances, il faut se concentrer sur les personnes les plus vulnérables.
Autre question, quel suivi pour ces personnes-là, puisqu'on a peu de recul sur ces vaccins ?
Effectivement, ces vaccins, pour l'instant, il y a quand même eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, qu'on ne les a pas suivis très longtemps. Globalement, il ne s'est rien passé de tout à fait inquiétant et même du tout. C'est des vaccinations qui sont très bien passées. Néanmoins, ce sont des vaccins de technologies nouvelles qu'on n'a pas utilisées jusqu'à présent pour fabriquer des vaccins. Donc c'est extrêmement important de suivre les personnes. Le fait de pouvoir l'organiser dans ces établissements, dans des structures elles-mêmes déjà regroupées et organisées, permettra d'avoir une observation très attentive de tous les effets de la vaccination.
Côté logistique, les EHPAD vont être mobilisés, les hôpitaux, mais pour être plus efficace et pour vacciner plus largement, il faudrait pouvoir aussi mobiliser nos médecins traitants ou encore les pharmaciens.
Alors ça, ce sont les préconisations que nous faisons, nous, à la Haute Autorité de Santé, c'est justement d'impliquer les médecins traitants, les infirmières libérales, les pharmaciens, seraient pour nous un point considérable dans la confiance que la population pourrait apporter dans le processus de la vaccination.
On rappelle que le vaccin n'est pas obligatoire. Un Français sur deux n'a pas l'intention de se faire vacciner. Comment les convaincre ? Comment les rassurer aussi ?
quand on a soi-même des facteurs de risque, on n'a pas la même position que quand on ne se sent pas à risque pour ce virus. Et donc, je pense que la position d'une personne appartenant à une population qui se sait à risque, parce qu'elle a vu autour d'elle ses congénères, ses amis être hospitalisés ou mourir du Covid, n'a pas la même position qu'un adulte de 30 ans qui... Si vous voulez, qu'il tombe à peine malade ou qu'il ne sait même pas qu'il a été malade. Mmh. La confiance, pour moi, je pense qu'elle doit passer vraiment par les professionnels de santé de terrain et qu'il faut donc engager dans ce processus.
Voilà, merci beaucoup Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Merci pour ce décryptage.
Merci à vous.
Quant aux tests, pour qu'ils soient vraiment efficaces, il faut que leurs résultats soient rapides. Et à partir du 10 décembre, les laboratoires seront d'autant mieux rémunérés qu'ils seront rapides. Les explications de François Blanchecotte, le président du syndicat des biologistes de France.
Un laboratoire qui peut prendre en charge et rendre le résultat avant 12 heures sera rémunéré au prix de 54 euros. Mais entre 12 et 24 heures à 43 euros et au-delà de 24 heures jusqu'à 48 heures à 31 euros. À partir du 48 heures, le test n'est plus pris en charge par la Sécurité sociale. Il y a une demande de délai de rendu plus court par l'assurance maladie, ce que nous avons entendu. Il est vrai que dans certains endroits en France, du point de vue du ramassage, du point de vue géographique, sur le terrain, il arrive que les ramassages soient plus longs et qu'on n'arrive pas à rendre ça tout à fait dans les 12 heures. Ça demande une organisation supplémentaire de façon à ce qu'on rende les résultats plus rapidement.
François Blanchecotte avec Anaïs Bouissou. Le budget de la Sécurité sociale doit être approuvé aujourd'hui par le Parlement avec un déficit hors norme lié à la pandémie. Il est désormais estimé à 49 milliards d'euros. Il prévoit aussi, ce budget, un congé paternité doublé de 14 à 28 jours et la création d'une cinquième branche de la Sécu dédiée à la prise en charge de la perte d'autonomie. Une pause et dans un instant, on part à Saintes pour le procès d'un pédophile hors norme.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est l'un des plus grands pédocriminels français. L'ancien chirurgien de Jonzac, Joël Lescouarnec, comparaît depuis ce matin devant les assises de Charente-Maritime. L'homme pédophile revendiqué, qui pourrait avoir fait plusieurs centaines de victimes, ne comparaît dans un premier temps que sur quatre dossiers. Une petite patiente de 4 ans, ses deux nièces et une voisine de 6 ans qu'il a violée. Le huis clos total a été demandé. Et certaines victimes ont affronté le regard de leur agresseur impassible, Alice Moreno.
Oui, le visage moitié dissimulé derrière son masque, seul le regard brun du chirurgien est perceptible. Il décline rapidement son identité, le Lescouarnec, Joël, puis s'assied dans le box et scrute le banc des parties civiles. Il pose d'abord les yeux sur la mère de la petite voisine qui a dénoncé un viol. La jeune femme soutient son regard, la tête inexorablement tournée vers l'agresseur de sa fille. Puis, Joël Lescouarnec fixe longuement ses propres nièces, les deux jeunes femmes qui auraient été victimes de leur oncle pendant leur enfance, ont aujourd'hui une trentaine d'années. Elles sont serrées l'une contre l'autre sur le banc, enlacées par leurs compagnons respectifs. L'une d'entre elles ne peut réprimer un tic nerveux, sa jambe tressaute. Elle réclame le huis clos total. Au regard de la personnalité de Monsieur Lescouarnec, qui semble aimer qu'on lui porte de l'attention, entame l'avocate des deux nièces, nous n'allons pas faire le jeu de cet homme. L'accusé ne réagit pas, son crâne coiffé d'une couronne de cheveux blancs pivote d'un avocat à l'autre. La défense pousse aussi pour le huis clos pour garantir la sérénité des débats. Des débats qui vont beaucoup se concentrer sur le cercle proche du chirurgien, l'entourage familial. Le témoignage de l'épouse de Joël Lescouarnec est particulièrement attendu, accusé par plusieurs victimes d'avoir dissimulé l'attirance de son mari pour les mineurs.
Alice Moreno en direct du Palais de Justice de Saintes. L'article 24 de la loi de sécurité globale est-il liberticide? Comment faire bouger les lignes sans se renier? Après le tabassage d'un producteur de musique à Paris, l'affaire est toujours suivie de près à l'Élysée. Réunion en ce moment autour d'Emmanuel Macron avec Jean Castex et les principaux ministres concernés. Un peu plus tôt dans la matinée, Gérald Darmanin, lui, s'était rendu devant les députés marcheurs de la commission des lois. Ils ont demandé au ministre de l'Intérieur un retrait ou une réécriture de l'article qui prévoit de pénaliser la diffusion d'images de policiers, Jacques Serret.
Oui, lors de cette réunion, ces députés de la majorité ont exprimé leur ressenti et le message était clair, unanime et insistant. Il faut que ça bouge. Réécriture ou carrément retrait de l'article 24, il faut absolument avancer sur cette question. questions et dès cette semaine. Voilà ce qu'ont dit ces parlementaires, pourtant pas réputés pour être des frondeurs. Le contexte autour de cet article est délétère, fait valoir un député. Il faut crever l'abcès, lâche un autre élu passablement énervé. Si on ne réagit pas maintenant sur cet article, dans un mois, c'est toute la proposition de loi qui devrait être mise à la poubelle. En face, Gérald Darmanin écoute, mais reste impassible. Sa position, c'est le statu quo, rapporte ce député. Un proche du ministre confirme, il ne va pas varier en fonction de la météo, il est à l'aise avec ses convictions. Et le ministre de l'Intérieur sait que les Français le soutiennent. Selon un récent sondage, 6 Français sur 10 estiment que cet article 24 aura des effets positifs pour les forces de l'ordre. Il n'y avait pas d'animosité, tempère un élu. Mais plus que jamais, le bras de fer est engagé entre le ministre et les parlementaires de la majorité.
Quant au tabassage de Michel Zecler, 4 policiers ont été mis en examen et 2 d'entre eux écroués. Ils sont poursuivis pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, pour faux en écriture publique, un crime passible des assises. Il y a aussi plusieurs circonstances aggravantes, dont des propos à caractère raciste. C'est rarissime pour des violences policières, comme le confirme le sociologue Sébastien Rocher.
C'est rare, et dans ce calendrier extrêmement resserré, je crois que c'est effectivement tout à fait exceptionnel. On a eu des cas de personnes qui avaient fait l'usage de leur arme et avaient même tué, qui ne faisaient pas l'objet d'un soin aussi rapide et d'une attention aussi directe et médiatisée de la part du ministre. Donc là, il y a une pression politique qui est liée aussi aux manifestations. Et les juges ne sont pas indépendants de l'opinion. Donc le fait qu'il y ait maintenant une pression et une actualité politique a un effet, notamment parce qu'il se pourrait que le non-traitement par la justice ait des conséquences d'ordre public.
Sébastien Rocher avec Sébastien Rouxel. Dans un instant, méfiez-vous de certains rabais.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
C'est l'un des sites marchands les plus visités en France. Wish, on y trouve des vêtements, des bijoux, des parfums et de faux rabais. Le site a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier dans l'Hexagone. Il vient d'être épinglé par la répression des fraudes et son dossier transmis au procureur de la République parce qu'il y a tromperie sur la marchandise, Armelle Lévy.
Et oui, Wish, c'est une plateforme californienne qui propose plein de produits chinois à bas prix qui vous sont expédiés directement d'Asie par colis quand vous commandez en ligne. Alors pour attirer les clients, vous trouvez des prix cassé, sauf que normalement quand vous affichez 90% de réduction, c'est sur un prix de référence. Or là, Wish est suspecté d'avoir proposé de faux rabais, des réductions qui ne correspondent à rien. Le problème, c'est que si l'on vous propose un bijou à 10 euros en promo avec 90% de réduction, vous vous dites qu'il en vaut 100 et que c'est un produit de qualité. Mais là, pas du tout. Vous ne l'auriez même peut-être pas acheté s'il n'en valait vraiment que 10. Donc ça biaise le comportement d'achat des consommateurs et la confusion est encore plus forte sur le moteur de recherche de Wish. On vous laisse penser que vous pouvez trouver votre parfum de marque préféré. En réalité, il n'est pas proposé, mais c'est un flacon qui lui ressemble. Donc c'est doublement trompeur. La justice va maintenant étudier le dossier. Wish encourt plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende.
Merci Armelle. Et comme promis, Bernard Lehu est revenu en studio pour le prix Renaudot. Alors donc le prix Goncourt, c'était Hervé Letellier pour l'Anomalie. Et le prix Renaudot revient à une femme.
Oui, alors là, je suis très heureux, vous allez dire, vous en foutez, mais c'est pas l'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont dans une petite maison d'édition Buchet-Chastel. Et j'adore vraiment cette romancière, cette écrivaine qui n'est pas forcément très connue du grand public, mais qui a un immense talent. Histoire du fils, c'est la quête d'un père par son fils qui ne l'a jamais connu. Un livre de toute beauté, vraiment un de mes grands coups de cœur de cet automne. Et une prouesse d'écriture en moins de 180 pages, Marie-Hélène Lafont brosse une fresque familiale sur 3 générations et un siècle, le 20e siècle. Voilà, c'était vraiment un très beau prix Renaudot, histoire du fils, Marie-Hélène Lafont.
Et vous voilà comblé, merci Bernard. Et nous aussi, RTL, on remet un prix aujourd'hui, celui de la bande dessinée pour Peau d'homme de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat, un conte de l'équivoque sur la transformation des genres. Une femme devient un homme pour mieux connaître son mari. Peau d'homme, grand prix RTL de la BD. Miraculé, mais quand même bien secoué. Romain Grosjean, brûlé aux mains lors d'un effroyable accident hier au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, sera forfait au moins ce week-end. Hier, sa voiture a été coupée en deux après avoir heurté les barrières de sécurité à 220 km/h, il a encaissé 53 fois le poids de son corps et a mis 28 secondes pour se sortir des flammes. Pour Mathieu Zangarelli, le directeur sportif de l'écurie ART, rien d'étonnant, les pilotes ont une condition physique hors norme.
En moyenne, les pilotes de F1 subissent des accélérations, des décélérations de 4G, 4G et demi, la répétition fait que ça fatigue énormément. Et la base de la préparation physique, elle n'est pas forcément faite pour être prêt à supporter des accidents comme Romain l'a subi, mais elle est juste faite pour être en condition physique, pour supporter les différentes contraintes d'un week-end de course. Ils sont tous encadrés, évidemment, ils ont des préparateurs physiques individuels. Il y a des groupes musculaires qui sont plus privilégiés dans la préparation que d'autres. Quand on prend une décélération de 50G, toute la partie du haut du corps, à la fois le cou, la nuque et puis toute la chaîne abdominale lombaire, le haut du corps d'un pilote de Formule 1, il est extrêmement résistant, extrêmement puissant et très tonique. Ce qui a certainement permis à Romain de sortir de la voiture par ses propres moyens, avec la lucidité qu'il faut dans ces moments-là, c'est certainement cette capacité physique à avoir pu absorber ce type de décélération-là et être en mesure de pouvoir réagir avec les bonnes actions dans un temps extrêmement bref. Que l'impact qu'a eu Romain hier, un organisme lambda aurait certainement perdu connaissance au moment de l'impact.
Oui, c'est fascinant en tout cas, des propos recueillis par Philippe Sansfourche. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez donc dialoguer au 32-10 dans 5
minutes. On pourra parler
minutes.
De ça d'ailleurs,
ouais. Hein,
évidemment,
incroyable.
Parce que c'est fascinant. Mais on va parler de la lecture, ça va nous changer parce que les thèmes sont souvent les mêmes ces derniers temps, le Covid, la sécurité, les policiers. Mais on va beaucoup parler de la littérature, de la lecture, des livres en fait, avec le prix Goncourt. Et est-ce que vous savez combien de livres les Français lisent par an en moyenne?
Non.
21,
ah,
c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Moi, je trouve que c'est beaucoup. Je pense qu'ils trichent un peu.
En moyenne, c'est
ouais,
beaucoup.
Je pense que ça me paraît énorme, moi. 21 livres en moyenne. Mais c'est vrai que d'abord, les lecteurs sont souvent des lectrices en France. Et on sera avec Bernard Lehu pour parler de ça. Et ça va être passionnant. Quel est le dernier livre que vous ayez acheté? Voilà une question toute simple et toute bête.
C'est une question.
Ah, bon, c'est peut-être.
Je suis capable de vous répondre là tout de suite. Mais non, c'était il n'y a pas longtemps.
Mais non, mais c'est intéressant. On va voir le goût des auditeurs d'RTL, des essais, des romans, des biographies, des bandes dessinées, que sais-je. On pourra évidemment évoquer le vaccin. Oui. On pourra revenir sur la messe avec 30 personnes. Ça n'avait pas de sens et le Conseil d'État a dit non. Et puis, c'est 4 policiers mis en examen. 2 d'entre eux ont été écroués. Donc, vous pourrez réagir sur tous ces sujets. On est ensemble pendant 1h30. Et sur le froid, pourquoi pas aussi?
Ah bah,
est-ce que vous aimez le froid?
C'est bien, il lance tout seul Louis Baudin.
Exactement.
Pascal.
Le froid qui arrive effectivement et qui s'installe pour quelques jours, bah, on va dire quelques semaines. Oui, tant mieux, c'est vrai que ça tombe bien, c'est l'hiver qui débute, même si c'est le 21 officiellement, 21 décembre. C'est vrai que pour la météorologie, on commence au début décembre. Donc, même si on n'y est pas encore tout à fait, c'est vrai que ça restera froid aujourd'hui, avec un ciel qui aura tendance à se dégager cet après-midi presque partout. Il restera probablement quelques nuages bas dans la vallée de la Saône. Et puis surtout, arrivera une perturbation par le nord que l'on va surveiller, apportant des nuages déjà près de la Manche sur l'île de France en toute fin de journée et les premières pluies sur le nord Pas-de-Calais. Du coup, la nuit prochaine, on pourrait bien avoir des pluies verglaçantes dans l'extrême nord-est. Alors, avant l'arrivée de ces pluies, les températures resteront fraîches cet après-midi. 1 à 3 degrés seulement dans le nord-est, 5 à 9 degrés dans le nord, 8 à 13 degrés près de l'Atlantique ou encore dans le sud-ouest et 13 à 16 degrés dans le quart sud-est.
Oui, parce que demain, ce sera toujours le froid, mais humide.
Humide, effectivement.
Là, on aime moins.
Mais voilà, la perturbation dont je vous parlais, là, qui progressera en cours de nuit, apportant donc demain matin des pluies verglaçantes, quelques neiges du côté des Ardennes, sur la Lorraine, sur une partie de l'Alsace. Et puis tout ça glissera vers le sud. Alors en cours de journée, ça donnera de la pluie en pleine, mais de la neige à basse altitude sur tous les massifs. Voilà une bonne nouvelle, même si les stations ne peuvent pas encore ouvrir. Sur l'Alsace, sur le Jura, les Alpes, le Massif central, puis sur les Pyrénées en fin de journée. Beaucoup de nuages, donc quelques éclaircies reviendront près de la Manche. Et puis le soleil résistera un peu près de la Méditerranée. Les températures toujours aussi fraîches demain matin avec des gelées dans le nord-est. Et puis l'après-midi, on sera entre 8 et 10, 12 degrés dans la moitié nord, 10 à 13 degrés de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et 11 à 15 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et vous allez pouvoir évidemment réagir à ces 4 policiers mis en examen. 2 d'entre eux sont écroués. Nous sommes avec François qui habite Orbec. Est-ce que oui. Ça vous paraît une bonne mesure?
Je dirais simplement que la démocratie souffre.
Eh bien, vous allez nous expliquer ça dans une seconde. Christelle Rebière. Le rappel des titres.
Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour son roman L'Anomalie, qui marie la science-fiction et la philosophie, l'histoire d'un avion surgi du passé, un roman cinématographique. Hervé Le Tellier.
Les idées qui sont dans le roman, je les avais depuis longtemps, mais l'idée du roman lui-même, non. C'était assez récent, c'était il y a 2 ans.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il devrait avoir une suite sous forme d'image, série ou quelque chose comme ça, non?
Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension cinématographique dans ce roman. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi d'arche narrative, comme on dit dans le vocabulaire qui est celui de la série. Après, je ne sais pas ce qui va se passer précisément en termes d'options, en termes de production, mais c'est vrai que ça ne me déplairait pas d'imaginer ce livre incarné sur l'écran, de voir ce que ça peut donner, bien sûr.
Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Quant au prix Renaudot, il a été décerné à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du Fils. Les résidents des EHPAD et toutes les personnes qui travaillent auprès d'eux seront prioritaires dans la campagne de vaccination contre le Covid dès que les premières doses arriveront. L'idée, c'est de protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent, dit la Haute Autorité de Santé. Police et sécurité, c'est autour de ce thème qu'Emmanuel Macron réunit en ce moment Jean Castex, les ministres concernés et les chefs des groupes parlementaires de la majorité. Le chef de l'État leur avait demandé, après le tabassage de Michel Zecler, de faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance entre police et population. L'affaire des écoutes, une semaine après un faux départ, le procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, de son avocat et d'un haut magistrat doit s'ouvrir dans une demi-heure. Les débats s'annoncent rugueux.
Jusqu'à 14h30,